GPU, car les petits utiles.
Dans cette release, de la parano, de l'humour, des sauvegardes et des fenêtres. L'équipe aujourd'hui, Simon, Guillaume et Daskritch. Nous vous diffusons un remontage de la crypto-partie du 28 octobre 2017. Et j'espère que tout le monde, public inclus, a mis son portable sur silencieux. Alors, c'est reparti.
CPU, carré, petit utile.
Aujourd'hui, nous vous passons la dernière partie de la crypto-partie qui eut lieu le samedi 28 octobre 2017 à la médiathèque José Cabanis. Nous remercions infiniment tous les bénévoles de CryptoParty Toulouse et les équipes de la Bibliothèque Municipale de Toulouse. Le lien vers l'enregistrement complet et non remonté de la CryptoParty est disponible sur la page de l'émission sur notre site cpu.pm.
Je vais vous parler rapidement de la sauvegarde de vos données, donc que ce soit des disques durs ou des clés USB ou des serveurs ou quoi que ce soit. Alors la sauvegarde, le point principal qui revient à chaque fois quand j'en parle avec d'autres personnes, c'est qu'ils me disent « Oui, je sais, il faut que je le fasse, mais c'est très long et j'ai pas le temps, je le ferai plus tard, le mois prochain, l'année prochaine. » Et souvent, 2 ans après, c'est toujours pas fait. Ce qui est important de savoir, c'est que vos données personnelles, privées ou parfois même publiques, valent de l'or dans la société actuelle, parce qu'elles valent de l'or pour vous, à titre personnel, comme vos photos et vos vidéos que vous voulez garder, sauvegarder, ne pas les perdre, parce que ça, c'est des souvenirs, c'est des moments partagés avec votre famille ou avec des amis. Vos données bancaires, parce que vous n'êtes pas censé les partager ou les montrer à qui que ce soit. Et les données que vous rendez publiques, plus ou moins, sur des sites ou sur des réseaux sociaux, comme vos habitudes de consommation, vos achats sur Amazon, vos clics sur des publicités, Google, etc., ou votre historique web. Il faut savoir que Facebook, Google, etc., sont milliardaires grâce à vous, grâce à nous, parce qu'ils utilisent nos données personnelles, les revendent à des régies publicitaires qui peuvent ensuite nous cibler pour mieux nous faire acheter ce qu'ils pensent que nous avons besoin. Comme une voiture en exemplaire unique, ce qui est rare et cher. Donc si vos données n'existent qu'en un seul exemplaire sur votre ordinateur, vous allez être beaucoup plus enclin à payer une rançon si votre disque dur a été chiffré à cause d'un virus informatique. Vous allez être beaucoup plus enclin à amener un disque dur chez un réparateur qui va vous facturer une main-d'œuvre incroyable alors que c'est pas si compliqué que ça de brancher un disque et de le cloner. Et vous allez peut-être investir dans des logiciels qui vous promettent de récupérer vos données que vous avez supprimées de la corbeille de votre Windows sans faire attention. Toutes ces raisons vont faire que vous allez dépenser de l'argent pour récupérer des données qui étaient à vous et dont vous n'aviez rien dépensé pour les obtenir. Moi, je vous propose une méthode simple à retenir et à effectuer. C'est la méthode 3-2-1. Trois sauvegardes différentes. Donc, vos données sur trois supports. Ça peut être votre disque dur interne de votre ordinateur portable, un disque dur externe et un disque dur sur un serveur qui n'est pas chez vous. Parce que il faut que vous ayez au moins 2 types de stockage différents. Donc ça peut être un disque dur externe, un disque dur interne ou une énorme clé USB si vous avez beaucoup de données ou des DVD si c'est pour des photos de vacances ou des films. Et il faut qu'une de ces 3 copies se trouve ailleurs que chez vous. Parce que en cas d'incendie, si vous avez vos 3 copies chez vous, vous perdez tout. Si vous faites cambrioler, vous perdez tout. Imaginons un cas pratique. Un grand-père a fait des photos au mariage de sa petite-fille. Il les met sur son ordinateur. Il lui envoie par mail et il les grave sur des CD pour pouvoir mieux se les organiser chez lui. Il a appliqué, peut-être sans le savoir, à la lettre la méthode 3-2-1, puisqu'il aura les photos sur son ordinateur, sur son serveur mail et sur ses DVD. Et donc, ça fait les 3 sauvegardes différentes. Les 2 types de stockage, là il y en a 3, mais ça fait DVD, disque dur et serveur distant. Et du coup, la copie décentralisée se trouve sur son serveur mail. Vous voyez, c'est pas extrêmement compliqué d'appliquer cette méthode. Vous avez vos données en 3 exemplaires accessibles très rapidement. Pour réaliser vos sauvegardes, vous avez plusieurs outils, plusieurs méthodes à votre disposition. Vous pouvez, comme je l'ai évoqué déjà, faire des sauvegardes manuelles sur vos disques durs. Vous avez votre ordinateur, portable ou desktop. Vous branchez un disque dur en USB. Vous copiez tout manuellement ou vous utilisez un logiciel qui va le faire automatiquement pour que vous n'ayez pas à chaque fois à tout recopier pour effacer l'ancienne sauvegarde. Un logiciel peut vous permettre de copier ce qui a seulement été modifié ou ajouté sur vos disques durs. Vous pouvez aussi automatiser la procédure avec des serveurs personnels, un NAS, un Raspberry Pi que vous branchez chez vous et que vous configurez avec des services tels que des clouds personnels. Il existe OnCloud, il existe NextCloud, il existe CozyCloud, il en existe plein d'autres, pas forcément gratuits ou open source, donc je ne les citerai pas forcément. Un Raspberry Pi et un NAS, ce sont des mini-serveurs que vous pouvez brancher chez vous et qui vous permettront de stocker des données en ligne, mais chez vous. Donc elles seront accessibles depuis n'importe où, en fonction de votre configuration et de vos choix personnels. Et vous pourrez sauvegarder des données dessus. Donc ça vous fera 2 exemplaires de vos sauvegardes avec votre ordinateur et votre serveur personnel, avec des solutions de sauvegarde automatique que vous pouvez mettre en place, par exemple, sur mon téléphone portable. Dès que je prends une photo, elle est envoyée sur mon serveur personnel, automatiquement, sans que j'ai besoin de le faire manuellement. Ce qui me permet soit de faire de la place sur mon téléphone quand j'ai plus de mémoire, soit, comme ça vient de m'arriver il y a 2 jours, mon téléphone plante, je suis obligé de le réinitialiser. Je n'ai pas eu peur de le faire parce que toutes mes photos étaient déjà ailleurs, déjà sauvegardées. Le même principe de NAS ou de serveur personnel peut s'appliquer sur des serveurs distants. Vous pouvez louer un serveur et y mettre les mêmes logiciels. Donc au lieu d'envoyer mes photos directement sur un serveur qui est chez moi, je peux choisir de l'envoyer chez un prestataire comme OVH ou Gandhi qui va me proposer contre un abonnement mensuel de la place sur ces serveurs. Ou alors je peux faire confiance à un prestataire spécialisé dans la sauvegarde de données qui sera forcément payant, pas forcément excessivement cher, c'est à raison de entre 50 et 60 euros par an. Je vais citer Backblaze et CrashPlan. CrashPlan est un peu en train de se casser la gueule, donc n'y allez peut-être pas. Ces deux prestataires, en fait, ils vont vous vendre de l'espace sur leur serveur distant dans un data center a priori protégé et sécurisé. Vous allez installer un logiciel sur votre ordinateur, vous allez lui dire « je veux sauvegarder tel fichier, tel dossier, tel disque dur » et une fois par jour ou une fois par semaine, en fonction de vos envies, le logiciel va faire le tour de ce qui a été modifié sur votre ordinateur et va l'envoyer sur le serveur du prestataire. L'avantage, c'est que ces prestataires ont des services assez fiables. J'en ai fait le test pendant maintenant 6 mois et j'ai jamais eu de problème. Le deuxième avantage, c'est que les données sont accessibles immédiatement depuis n'importe où. Donc si vous changez d'ordinateur parce qu'on vous l'a volé ou parce que vous l'avez cassé, vous pouvez réinstaller le logiciel et récupérer toutes vos données ça dépend de la quantité, mais en 1 jour ou 2, ou quelques heures si c'était juste quelques photos. Autre point important, sur toutes ces solutions, vous avez la possibilité de chiffrer vos données. Comme ça, si le prestataire se fait pirater, les pirates auront accès à toutes les données de tous les clients. Si vous avez choisi de chiffrer vos données, ils ne pourront pas les exploiter. Ils n'auront pas le mot de passe nécessaire et vos photos, vos relevés bancaires, vos mots de passe, etc. seront protégés. Vous pouvez également le faire avec un logiciel sur un disque dur. Vous branchez un disque dur à votre ordinateur, vous utilisez un logiciel pour tout sauvegarder dessus et ensuite vous pouvez choisir de chiffrer ce disque dur pour que, en cas de vol de votre ordinateur ou de votre disque dur de sauvegarde, vos données ne soient pas accessibles aux voleurs ou à n'importe qui. Si vous avez des questions. Oui. Alors, quels sont les outils pour effectuer une duplication en automatique ? Ça dépend du système d'exploitation. Sur Mac, il y a Time Machine qui est intégré au système. qui permet d'automatiser les sauvegardes. Soit manuellement, vous branchez un disque dur à votre convenance, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. Branchez un disque dur à votre ordinateur. Time Machine va se lancer après quelques minutes. Il va faire le tour de tout ce qui a été modifié sur ordinateur. Il va tout sauvegarder sur le disque dur. Ça peut être réalisé également avec un NAS. Vous pouvez configurer un client Time Machine directement sur certains NAS, avec les NAS Synology par exemple. C'est très simple à mettre en place. Ça va se faire tout seul, pas besoin de brancher un disque dur, et vous pouvez oublier que la procédure se lance. Sur Windows, je ne suis pas sûr qu'il y ait une application dédiée, pas d'application dédiée sur Windows, mais il en existe, développé par des tiers, identique à Time Machine en termes d'exécution de la sauvegarde. Là, comme ça, je ne saurais pas vous dire lesquels. Sur les NAS, il y a des explications, mais si on veut automatiser sa sauvegarde avec un disque dur externe qu'on branche soi-même, ça doit exister, c'est sûr. Vous avez aussi sur Mac un logiciel qui s'appelle Carbon Copy Cloner qui permet de cloner entièrement un disque dur vers un autre disque dur, qui fait aussi la différence entre les fichiers déjà existants et les fichiers qui ont été modifiés. Ça vous permettra de cloner des disques durs autres que les internes, à la différence de Time Machine. Norton Ghost, équivalent Windows à Time Machine pour la sauvegarde automatique.
Merci.
Oui ? Est-ce que sur Linux, à part se configurer une tâche serveur vers un serveur distant, oui, il existe aussi des utilitaires, des paquets équivalents à Norton Ghost du coup et Time Machine. Les Linuxiens pourront peut-être vous en donner. Directement dans GNOME, il y a quelque chose qui est prévu. Ok, il y a une application intégrée développée par Linux. Oui ? Alors, mon home server, il est chez moi. Et dès que je prends une photo avec mon téléphone, elle est envoyée via la 4G ou via n'importe quel réseau Wi-Fi auquel je me connecte sur ce home server. Donc mes photos sont stockées chez moi sur un disque dur. Ce qui me permet de contrôler en fait, comme on disait au début, la paranoïa où sont stockées mes photos. Je sais qu'elles sont chez moi et pas chez Google ou pas sur un serveur Amazon. Je peux sur ce serveur personnel configurer une tâche de sauvegarde pour qu'elle soit envoyée sur un serveur distant. Je peux avoir une boucle comme ça, genre de mon téléphone vers mon serveur personnel et de mon serveur personnel vers un serveur distant. Les trois peuvent être chiffrés sans trop de problèmes et les trois peuvent être complètement automatiques et actuellement j'y fais même plus attention. Oui ? Logiciels de chiffrement, quels sont-ils ? Ça dépend encore une fois de la plateforme, de système d'exploitation. Sur macOS, on peut le faire dans Time Machine, c'est une case à cocher. On définit un mot de passe et Time Machine chiffre automatiquement la sauvegarde. Si vous achetez un NAS, il aura aussi une option, juste une case à cocher, un mot de passe à remplir, pour chiffrer automatiquement et tout seul lui-même le répertoire de sauvegarde. Chez les prestataires, c'est la même chose. Une case à cocher, un mot de passe, je souhaite chiffrer mes données, et tout ce que vous envoyez sur leur serveur est chiffré. Et après, un disque dur manuel.
Actuellement, sur tous les systèmes d'exploitation, quand on met un disque dur, on peut prendre le choix que les données dessus soient chiffrées, et que donc il faut un mot de passe pour y accéder. Donc si jamais on extrait le disque dur, on le met dans un autre ordinateur, on ne peut pas y accéder sans avoir le mot de passe en question pour y accéder. Donc tout à l'heure, quand il y a eu la question, si tu vendrais ton ordinateur, est-ce que tu y laisserais le disque dur, tu n'aurais pas peur ? Ben moi, non, je n'ai absolument pas peur. Le disque dur est chiffré, donc il n'y a pas de problème. Donc même mon téléphone aussi est chiffré d'ailleurs. En fait, maintenant, ça commence justement suite à la prise de conscience qui a été faite par la révélation Snowden. Il y a eu une prise de conscience de ce côté-là dans l'ensemble de ceux qui font ce qu'on appelle le système d'exploitation de votre ordinateur. Donc Microsoft, Apple, ceux qui sont derrière Linux, ont fait en sorte qu'il n'y ait qu'une case à cocher. Même en général, elle est cochée par défaut actuellement. Donc c'est relativement tranquille de ce côté-là. Les problèmes sont autres en fonction du NAS et de la gestion. Alors attention, c'est le disque dur qui est dans l'ordinateur, qui est chiffré par défaut au moment de l'installation du système. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut reformater en fait les disques durs extérieurs pour qu'il y ait un mot de passe dessus. la manœuvre est pas très aisée, honnêtement. C'est clair que là-dessus, elle est un petit peu compliquée. Par contre, on a parlé tout à l'heure de PGP. PGP a été conçu dans cette optique-là pour chiffrer, non pas l'ensemble du disque dur, mais les fichiers individuellement. On a toujours les métadonnées, c'est-à-dire le nom de fichier, hein, pour savoir ce que l'on va ouvrir. Et justement, PGP permet de chiffrer en fait les données à l'intérieur d'une manière sécurisée. C'est une solution qui a un certain âge, qui date de 93, qui est très régulièrement mise à jour, qui est très fiable. Donc là-dessus, elle est vraiment, en termes de sécurité, elle est très bien, elle est très stable. Et surtout, elle marche sur les trois systèmes d'exploitation. Donc si on a un fichier qu'on transmet à quelqu'un en PGP, qui n'est pas sur le même système d'exploitation que vous, il pourra la décoder de ce côté-là.
Bon, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Conférence suivante.
écoutez Radio FMR. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous vous diffusons des extraits de la crypto-partie du samedi 28 octobre 2017.
Bon, alors je vais vous parler un peu de comment sécuriser son ordinateur Windows. Alors, mes comparses ici vont beaucoup vous parler de Mac, de Linux. Si vous voulez quelque chose de très sécurisé, vous avez Linux, vous avez Tails, où là vous serez à l'abri, mais je pense que beaucoup d'entre vous sont sous Windows, n'ont peut-être pas envie aujourd'hui, ce soir, en rentrant chez eux, d'installer Linux, de passer à Tails direct. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que sous Windows, vous n'êtes pas forcément, comme on peut le croire, comme les bruits courts, forcément victime de virus directement. Windows est sécurisé. C'est-à-dire que vous achetez un ordinateur, il est sous Windows, vous l'allumez, vous le mettez sur Internet, il n'y a pas de virus qui va apparaître magiquement. C'est vraiment de base sécurisé. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années, on avait un Windows XP, on pouvait le mettre sur Internet. Au bout de 5 minutes, enfin même aujourd'hui, il va partir, il va se prendre des virus. Un ordinateur actuel sous Windows est sécurisé. Par contre, comme beaucoup, comme Linux, ça vous laisse faire ce que vous voulez. C'est-à-dire, si vous faites n'importe quoi, si vous téléchargez un exécutable dont vous ne connaissez pas la source, que vous lancez, que vous validez les avertissements, vous pouvez vous prendre des virus. C'est ce qu'il faut savoir. Alors déjà, première chose, c'est que depuis Windows Vista, votre compte utilisateur n'est pas administrateur par défaut. C'est-à-dire qu'avant, vous pouvez installer des logiciels, ce que vous voulez, ça pouvait modifier les fichiers système. Depuis Windows Vista, ce n'est plus le cas. Il y a eu, alors vous en avez sûrement entendu parler, ce qu'on appelle l'UAC, c'est-à-dire dès que vous allez installer un logiciel, une petite fenêtre qui apparaît, qui vous dit « Êtes-vous sûr de vouloir installer ce logiciel ?» Alors ça, ça avait beaucoup fait parler à l'époque, parce que notamment, ça apparaissait très souvent. Ça a été réglé depuis. L'UAC vous permet d'utiliser votre ordinateur de manière normale, en mode utilisateur seulement. Donc il y a une validation pour accéder au système. Et il y a un système d'éditeur vérifié. Ça, c'est la fenêtre quand vous allez vouloir installer un logiciel. Est-ce que vous voulez vous autoriser cette application à porter des modifications ? Et il y a aussi quelque chose d'important, c'est que là, j'ai voulu installer Firefox, et il y a marqué « Éditeur vérifié Mozilla Corporation ». Ça veut dire que le logiciel que j'ai téléchargé, le fichier exécutable que j'ai téléchargé, a été signé. Donc, par rapport à... Il y a des clés donc, de chiffrement, donc ça, on ne va pas entrer dans les détails, mais on sait que l'exécutable a été créé par Mozilla Corporation. Et Mozilla Corporation est enregistré auprès des serveurs Microsoft comme une source fiable. Donc, je sais que je veux installer ce logiciel qui est vérifié par Mozilla Corporation. Donc, c'est sûr, je peux cliquer sur « Oui ». Si jamais vous utilisez votre ordinateur, il y a cette fenêtre-là qui apparaît avec marqué « Éditeur inconnu ». Vous ne savez pas pourquoi. Ne cliquez surtout pas sur « Oui » parce que c'est probablement un virus. Alors ça, c'est le problème, c'est que souvent, ça apparaît, ça arrive beaucoup à beaucoup d'utilisateurs. C'est qu'on a quelque chose qui apparaît, on ne veut pas être embêté, on ne sait pas ce que c'est, on clique sur « Oui » pour que ça disparaisse et on continue. Vous n'êtes pas rendu compte et vous avez pris un virus. Donc quand cette fenêtre apparaît, regardez ce que c'est. Soit vous savez ce que vous faites, donc dans ce cas vous faites « Oui ». Si ça apparaît sans raison, surtout dans tous les cas, cliquez sur « Non ». Après, rapport à ce système de protéger, c'est-à-dire comme vous n'êtes plus administrateur, les logiciels ne pourront plus écrire dans les fichiers système. S'il y a un virus qui, à votre insu, essaie de modifier les fichiers Windows, de modifier les fichiers Program Files, ça ne va pas planter non plus. Il y a un système interne de dossier de compatibilité. C'est-à-dire que le virus, il va tourner, ou l'application va tourner, elle va écrire dans des fichiers, elle va croire qu'elle modifie votre ordinateur, mais en fait, ça va modifier un fichier qui est totalement à part et qui ne va pas modifier votre système. Alors, par défaut aussi, aujourd'hui sous Windows, il y a les mises à jour automatiques. Alors ça, c'est très important. Et on en reparlera d'ailleurs à la conférence juste après. Là, ce que je vous ai dit, c'est le fonctionnement normal, mais des fois, il y a des failles de sécurité qui sont découvertes. Les failles de sécurité, ça veut dire que vous n'allez rien faire et un virus va connaître un chemin pour dérober, pour accéder à votre machine. Lorsque ces failles sont découvertes, il y a des mises à jour, tout le temps. Pas forcément de suite, ça peut prendre quelques jours. En général, ces failles sont découvertes, elles sont gardées secrètes le temps que la mise à jour soit déployée. Donc, les mises à jour sont déployées automatiquement tous les mois, le deuxième mardi de chaque mois. Microsoft fait une salle de mise à jour. Vous laissez votre ordinateur faire, il va redémarrer une fois de temps en temps, et là, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de soucis. Quelque chose que je recommande aussi, c'est un antivirus. Donc ça, j'imagine que tout le monde connaît cette recommandation. Sachez qu'aujourd'hui, sous Windows 10, même sous Windows 8, il y a Windows Defender qui est activé, installé par défaut. Donc, il est gratuit, il est préinstallé. Et pareil, vous laissez faire, vous laissez les mises à jour automatiques et vous avez votre antivirus. Vous n'avez pas besoin de payer un abonnement. Il fonctionne très bien. Et il a aussi l'avantage par rapport aux autres antivirus, c'est qu'il a été développé par les créateurs du système. Alors, il y a des risques. Alors, ça n'arrive pas souvent parce qu'ils sont sérieux. Mais les éditeurs antivirus vont souvent accéder à des informations très pointues du système. Et ça peut être dangereux. Lui, il a été développé par Microsoft. Donc, ils savent très exactement comment fonctionne le système. Donc, il est gratuit. Il est préinstallé sur Windows 8, sur Windows 10. Et il y a un autre logiciel qui est Microsoft Security Essentials. C'est la même chose. C'est l'ancienne version, en fait, que vous pouvez installer sur Windows Vista et Windows 7. Donc, si vous êtes sous Windows Vista ou sous Windows 7, vous cherchez sur Quant Microsoft Security Essentials, vous le téléchargez, vous programmez, il va vous proposer les mises à jour automatiques et c'est bon. Si vous avez déjà un antivirus, il n'y a pas de souci, vous pouvez le garder, je ne vous dis pas de le désinstaller. Sachez que vous avez un antivirus déjà installé probablement sur votre machine et qui ne vous coûte pas un abonnement. On est globalement protégé avec tout ce que je vous ai dit, il reste quand même quelques dangers. Je vous ai dit, vous n'êtes pas administrateur, donc les virus qui pourraient éventuellement arriver sur votre machine ne pourront pas modifier le système. Mais le risque, c'est quand même vos documents personnels. Puisque vous, en tant qu'utilisateur, vous avez besoin d'accéder à vos documents personnels. Donc si vous, vous y avez accès, les virus peuvent y accéder aussi. Il y a quelque chose qui est risqué, ça va être les documents qu'on va ouvrir dans Office ou dans Adobe Reader. Ça, c'est un vecteur d'attaque. Dans les entreprises, souvent, on reçoit un email où il y a marqué « Bonjour, veuillez recevoir cette facture avec une pièce jointe ». Vous ne savez pas qui c'est qui a envoyé, mais bon, c'est une facture, on est dans une entreprise, c'est normal. Vous cliquez, ça ouvre Word, sauf qu'à l'intérieur du document, il y a des scripts exécutables. Et Word va pouvoir lancer ce virus. Pareil avec Adobe Reader, donc avec des fichiers PDF. Donc ça, c'est un risque. Et alors même si on n'est plus administrateur, ces virus vont pouvoir accéder à vos fichiers, les supprimer, les chiffrer. Un risque aussi, c'est les clés USB. Vous vous promenez, vous voyez une clé USB dans la rue, vous vous dites, tiens, je la prends, ça coûte 20 euros d'économiser. Vous rentrez chez vous, vous la branchez, et dès qu'elle est branchée, hop, le virus se lance, chiffre tout votre ordi. Donc si vous trouvez une clé USB, vous ne savez pas d'où elle vient, ne la branchez pas sur votre ordi. Ou demandez à quelqu'un qui s'y connaît, qui a un ordi dédié, parce que ça peut être utile aussi de savoir si on veut savoir à qui elle appartient. D'ailleurs, j'avais préparé il y a quelques temps, cette semaine, il y a 2 jours, on est venu me voir dans mon entreprise pour me dire « J'ai trouvé ces clés, je ne sais pas qui elles sont. » Et il y avait une clé USB. Je leur demande « Vous n'avez pas regardé ce qu'il y avait dessus ?» Il me dit « Non, non, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un virus. » Donc ça, c'est le bon réflexe à avoir. Alors après, il y a des fichiers avec des extensions .js, .vb, .ps. Je suis sûr que vous ne savez pas ce que c'est. Moi, il y en a plein d'extensions, il n'y en a pas que 3. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Sauf que c'est des extensions, quand on clique sur le fichier, ça va s'exécuter et pareil, ça peut être un virus. Alors ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas de la part de Microsoft, de laisser ces fichiers-là exécutables. Mais aujourd'hui, c'est la plus grosse faille de Windows qu'il y a encore aujourd'hui. Alors là, je vous dis ça, c'est les dangers qu'on a, on peut s'en protéger. Par contre, ce n'est pas protégé par défaut. Il va falloir une action de votre part. Il y a un outil qui est très bien, qui s'appelle Harden Tools. Donc, vous cherchez Security Without Borders Harden Tools. Vous allez arriver sur un site GitHub. C'est un exécutable installé. C'est pas installé. Vous le téléchargez, vous le lancez. Donc là, vous allez avoir l'UAC puisque cet outil va modifier le système. Mais il va désactiver tout ce qui est dangereux. Ça désactive les scripts, ça désactive les fichiers JS, les fichiers VB, ça va désactiver les macros dans Word, les macros dans PDF. Ça va désactiver l'autorun sur les clés USB. Pour un usage normal, vous le téléchargez, vous le lancez une fois, vous cliquez sur Harden, ça prend 1 seconde, vous cliquez sur OK et c'est bon. Vous êtes tranquille. Le souci qu'il peut y avoir, par contre, c'est si vous avez vraiment, vous, un usage avancé, il peut y avoir des commandes auxquelles vous avez besoin d'accéder qui seront plus actives. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, je ne peux pas, en tant que développeur, utiliser ça parce que j'ai besoin d'accéder à la ligne de commande très régulièrement. Et donc, ça veut dire que si je veux y accéder, je dois lancer l'outil, débloquer, lancer la ligne de commande, puis rebloquer après. Mais pour la plupart des utilisateurs, dans votre usage personnel à la maison, ce sont des choses dont vous n'avez pas besoin et qui ne servent globalement à 95%, 99% que à propager des virus. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Non, tout a été clair ? Oui ? Pourquoi il n'y a pas d'antivirus sur le système Apple? Alors, je vais laisser Benoît qui connaît mieux.
T'inquiète pas. En fait, s'il y en a un qui est intégré directement dans le système, mais qui est caché aux utilisateurs, on n'a pas rien dans les paramètres système, contrairement à Windows Defender sur Windows. On a juste une case qui est cochée par défaut et qu'on ne peut même pas décocher nous-mêmes. Mais il y a bien un antivirus. Il y a dans les mises à jour que fournit Apple, que ce soit les Security Update ou les nouvelles versions, il y a des mises à jour qui sont fournies. Il y a même des mises à jour cachées. C'est juste le téléchargement des dernières définitions de virus. Mais ça, c'est souvent caché derrière la dernière version ou une security update, mais il y a bien un antivirus qui est présent. Par contre, ça va être un peu anapoatrol, je suis désolé. La plupart du temps, ce sont des définitions de virus pour Windows, parce que nous, Mac, on est porteurs sains. Ça ne se déclenche pas.
Ah, c'est moi, je t'attaquais comme ça. Mais, par contre, il faut reconnaître, c'est vrai que historiquement, Windows n'a pas été sécurisé, comme je vous l'ai dit là. Et Windows aussi a une part de marché qui est incomparable. Ce qui fait que pendant des années, il y a eu énormément de virus qui ont été faits pour Windows et pas pour Mac. Parce que faire un virus pour un Mac, déjà, il y a 20 ans, c'était plus compliqué que pour Windows. Et on touchait moins de monde. Donc finalement, ce n'était pas vraiment utile. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus besoin d'antivirus sous Windows que sur Mac. Avast, alors oui, il y a plusieurs antivirus. Donc il y a Avast, il y a Kaspersky, AVG, Norton. Globalement, oui, ils fonctionnent tous très bien. Je ne vous dis pas de désinstaller vos antivirus. Si vous en avez déjà un, il est probablement très bien. Voilà, c'est juste pour dire, si vous n'en avez pas, vérifiez que vous avez, si vous êtes sous Vista ou Windows 7, téléchargez celui-là qui est gratuit. Si vous êtes sous Windows 8 ou 10, vous êtes normalement à l'abri si vous ne l'avez pas désactivé. Oui, alors, est-ce que Windows Defender est aussi efficace que les autres antivirus? Globalement, oui. Alors après, il y a toujours des différences entre les différents antivirus. Il y a un virus qui va être reconnu par un, mais pas par l'autre, ou un qui va... Ouais. Globalement, ça protège à peu près aussi bien. Je ne veux pas dire qu'il est peut-être un peu plus ou un peu moins, ça, je n'ai pas les chiffres, mais globalement, ils se valent à peu près tous. Oui. Ouais. Alors, est-ce qu'il faudrait installer un antivirus sur tout ce qui est téléphone et tablette? Alors là, je ne suis pas spécialiste. Pour moi, il y en a quand même beaucoup moins besoin, parce qu'en général, sur les téléphones ou les tablettes, on ne peut pas vraiment télécharger d'applications. C'est-à-dire, on va passer par un store qui est vérifié. Mais alors après, je pense qu'il y a quand même un risque. Alors, je ne sais pas s'il soit Android. Xavier, peut-être, a plus d'infos.
En gros, la règle, oui, c'est très limité quand même, un téléphone. Vous n'en êtes pas propriétaire, d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas installer ce que l'on veut comme logiciel dessus. Ça a cet avantage qu'effectivement, vous êtes relativement sécurisé. Par contre, le problème, c'est ce que l'on a téléchargé soi-même, voire ce qui est déjà présent par défaut dans son téléphone, qui pose souci. Là-dessus, je suis obligé de laisser la parole à la Défense, qui montrera mieux que moi que son client est coupable.
Merci à la référence. Alors, il y a quelque temps, j'ai fait dans le cadre de la crypto-partie à Tournefeuille, à Utopia, j'avais fait une démonstration justement de smartphone qui, dès le démarrage, je l'avais juste ouvert. Ça m'avait coûté 100 euros, je l'avais juste ouvert. Premier truc que j'ai fait, c'est justement, j'ai installé un antivirus que je connaissais bien. Et dès le début, j'ai vu qu'il y avait 3 à 4 programmes qui étaient en fait des virus, des chevaux de Troie, des remplaceurs de publicité. Et j'ai réussi à en éliminer 3 sur 4. Le dernier, je ne peux pas l'enlever. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est considéré comme système par Android. Et donc, du coup, je ne peux pas le virer. Je l'ai coincé. Il est actif, il est toujours présent, mais je ne peux pas le jeter. Et le truc qu'il y a, c'est que le plus souvent, c'est au nom du fabricant. C'est le fabricant qui l'a installé. Parce que c'est pour lui un moyen de récupérer justement des données pour ses propres outils, voire éventuellement pour les revendre à quelqu'un d'autre.
Pas d'autres questions ? Alors, si on consulte nos mails sur le téléphone, est-ce qu'on a davantage de risques de recevoir un virus ? Alors, encore une fois, c'est le même problème que tout à l'heure, c'est que souvent, les virus sont faits pour Windows. Donc, si on reçoit le mail sur son téléphone que le virus est pour Windows, ça ne va rien faire sur votre téléphone. Si c'est un virus pour votre téléphone, il y a des chances qu'il n'ait aucun accès parce que votre téléphone est bloqué, il est très limité en fonctionnalité. Après, est-ce qu'on a quand même un risque ? Ça me paraît très faible, oui ?
Dans tous les cas, il faut se dire, rien n'est incassable. Une serrure n'est pas incassable, les solutions de chiffrement ne sont pas incassables et les sécurités antivirus ne sont pas incassables. Le mieux est déjà d'essayer d'éviter d'ouvrir des pièces jointes dans les téléphones. Mais en gros, non, on peut estimer que c'est relativement sûr, mais à une condition. Faites les mises à jour. C'est un point important peut-être que mon camarade a oublié de dire. Pensez à faire les mises à jour le plus possible. Or, le problème, c'est est-ce que votre téléphone reçoit régulièrement des mises à jour ? Pour cela, vous avez un menu dans lequel il dit quand il a reçu sa dernière mise à jour. Si c'est plus de 3 mois, ça commence sérieusement à sentir le sapin, à être un risque. Si jamais vous utilisez un compte Gmail ou un compte Apple, ce qu'il faut savoir, oui, je sais, c'est les GAFAM et tout ça, mais il faut quand même leur reconnaître ça, c'est qu'ils font en sorte d'essayer de filtrer le plus possible ce genre de désagrément, parce que si jamais il y en a trop, ben on va dire ils font mal leur service. Dans le meilleur des cas, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que ce que l'on m'envoie est vraiment demandé ? Est-ce que cette facture d'Interflora de 350 €, alors que j'ai pas fait d'envoi de chez Interflora ? Là, peut-être, vous pouvez vous poser une question, c'est même pas la peine d'essayer de cliquer. Sinon, dans le reste, bah oui, il y a peu de chance si vous faites très attention de ce côté-là. En fait, on ne l'a pas dit, c'est un sujet qu'on avait abordé dans une autre, dans d'autres conférences. C'est la principale faille de sécurité dans ce cas-là, ça reste l'utilisateur. Mon camarade l'a très bien présenté. Si jamais on clique sans réfléchir, sans vérifier, là, il y a un risque. Et dans tous les cas, la meilleure des sécurités, ça reste nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on fait ces crypto-parties.
Effectivement, il y a un point important, c'est faites attention. C'est-à-dire, si vous recevez un mail, une facture, vous ne savez pas à quoi ça correspond, n'allez pas forcément cliquer dessus. Si vous cliquez, que vous avez activé ce que je vous ai montré, vous avez des grandes chances d'être protégé. Mais il y a toujours un risque. C'est-à-dire que vous risquez quand même qu'un virus passe. Ça, dans tous les cas. C'est pour ça que la présentation juste avant sur la sauvegarde est aussi très importante. C'est-à-dire que vous allez être un peu plus tranquille, mais vous avez quand même un petit risque. Et donc, ayez toujours une copie de sauvegarde de vos données ailleurs pour pouvoir vous récupérer vos données.
écoutez Radio FMR. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous vous diffusons des extraits de la crypto-partie du samedi 28 octobre 2017.
Voilà, donc je vais parler d'un autre sujet, sur le virus WannaCry. Alors je ne sais pas s'il y en a entre vous qui ont déjà entendu parler. Le virus WannaCry, c'est un virus qui a fait énormément parler de lui, c'était au mois d'avril, qui a infecté en quelques jours des milliers d'ordinateurs. Je vais juste vous expliquer un peu comment ça s'est passé, comment il a pu en trois jours infecter des milliers d'ordinateurs sur la planète entière. Le vecteur de WannaCry, c'est le protocole SMB. Alors je pense que pour vous, la plupart d'entre vous, ça veut rien dire. Le protocole SMB, en fait, un protocole, c'est un langage entre plusieurs ordinateurs. Ce protocole SMB, c'est un protocole qui permet de partager des fichiers, des imprimantes. C'est-à-dire que vous êtes dans une entreprise ou même chez vous, vous avez plusieurs ordinateurs, vous avez une imprimante, vous n'êtes pas obligé de brancher l'imprimante directement sur votre PC, vous allez pouvoir y accéder à distance ou partager des fichiers entre vos différents ordinateurs. Donc ça, c'est le protocole SMB. La version 1 est obsolète depuis 2006. Donc c'est un protocole qui a été créé dans les années 90, je crois. En 2006, il y a eu une nouvelle version, enfin avant, il y a eu une nouvelle version, et en 2006, Microsoft a dit « N'utilisez plus la version 1. Elle est vieille, elle a été mal conçue, il faut passer à autre chose. » Il y a eu une version 2, aujourd'hui on a la version 3. Mais la version 1, ça fait plus de 10 ans qu'il ne faut plus l'utiliser. La NSA, on en a parlé un peu, donc le service de renseignement américain, ont repéré une faille critique dans ce protocole. Il y en a plusieurs, oui. Donc, repérer des failles critiques. Donc, nom de code Eternal Blue. Ça leur a permis, sans que la cible ne voit rien, ne fasse rien, d'exécuter du code sur un ordinateur. C'est-à-dire que vous avez un ordinateur qui utilise le protocole SMB en version 1, sans rien faire, le code s'exécute. Donc c'est comme pêcher à la dynamite. Je ne sais pas d'où vient la...
C'est en fait quand les services de renseignement collectent les failles de données et ne les transmettent pas à ceux qui peuvent les corriger parce qu'ils s'en servent au cas où il y a de méchants ennemis à pirater. Des fois, ils s'en servent contre des cibles civiles pour voir ce que ça fait. La personne qui a découvert Eternal Blue, qui a fait le logiciel, il a dit plus tard dans une interview qu'il a accordée confidentiellement à un journaliste, l'utiliser, c'était comme pêcher à la dynamite tellement que c'était puissant. Vous vouliez avoir un petit poisson, en fait, vous venez de vider complètement un lac, ça ouvre vraiment toutes les portes.
Alors, petit historique du coup. Alors, c'était en avril, ce qui s'est passé en février 2017. Tous les mois, j'en ai parlé juste avant, Microsoft fait des mises à jour. Donc, c'est ce qu'on appelle le Patch Tuesday, donc le mardi du patch. Le deuxième mardi de chaque mois, vous lancez Windows Update, vous avez des mises à jour, vers 19h. Et en février, le Patch Tuesday a été annulé. On ne sait pas trop pourquoi, les sites d'information informatique... On me fait passer ça en disant il y a un souci ce mois-ci, on ne sait pas ce qui se passe, mais les patchs de ce mois-ci arriveront le mois prochain. Alors ce qui s'est passé, effectivement, le patch Tuesday de mars est plus gros, avec cette fois Microsoft qui nous dit appliquer ce patch. Donc il faut toujours les appliquer, mais là spécialement appliquer celui-là encore plus. Voilà, ça c'était au mois de mars. Mois de mai, le 12 mai, un virus se propage. Tous les ordis n'ont pas eu le patch de mars, c'est-à-dire que je vous ai dit par défaut, les mises à jour sont automatiques, mais il y a beaucoup d'ordinateurs qui n'ont pas les mises à jour automatiques. Et ce virus se basait sur la faille Eternal Blue qu'on a vue juste avant, qui a été patchée en mars, mais dont le patch n'a pas été appliqué. Et tous les vieux ordis plus vieux que Windows Vista, il y en a encore, n'ont pas eu le patch non plus parce que Microsoft considère que ces versions de Windows sont obsolètes, elles ne sont plus supportées. Donc si vous avez un Windows XP ou encore plus vieux, vous ne recevez plus de mise à jour. Et ces ordis-là étaient aussi victimes des virus. Alors, c'est la plus grave infection depuis Conflicker. Donc, Conflicker, c'est un virus qui s'est répandu en 2008, qui aurait infecté 9 millions de machines. Et là, selon les estimations, on aurait eu 300 000 PC infectés dans 150 pays, en seulement quelques jours. Alors, je tiens quand même à noter que, par rapport à 2008, on voit qu'il y a beaucoup moins de virus infectés, parce que grâce, notamment à cette mise à jour, grâce à la mise à jour automatique qui a eu lieu et grâce à globalement une meilleure sécurité sur tous les systèmes, ça a permis de diminuer le nombre d'infections, mais ça reste quand même quelque chose d'énorme. Peut-être vous, certains d'entre vous dans votre entreprise ont entendu parler qu'il y a eu un souci, une machine qui ne marchait plus le 12 mai ou le 15 mai, le lundi en arrivant au travail. Le samedi 13 mai, MalwareTech, donc ça c'est un nom de compte de Twitter, c'est le nom d'un chercheur en informatique britannique, a réussi à bloquer involontairement la propagation. pas bloqué, mais vraiment bien diminué, en déposant le domaine, ce domaine-là. Donc, je ne vous le dis pas, Severin. Il n'a pas juste fait ça par hasard. Je vous le dis, il n'a pas tapé ce nom par hasard, qui a par hasard arrêté le virus. Ce qui s'est passé, c'est que le virus, quand il s'exécute, avant d'aller chiffrer tous les fichiers et de se propager, il fait une requête sur ce domaine. Alors, on ne sait pas pourquoi il fait une requête. A priori, ce serait ce qu'on appelle un kill switch, c'est-à-dire une option pour les développeurs d'arrêter le virus à distance. Donc, il fait une requête sur ce domaine. Notre théorie, c'est que ça permet de savoir si le virus est dans une sandbox. Alors, une sandbox, c'est ce qu'utilisent les chercheurs en sécurité pour travailler, pour vérifier comment fonctionne un virus, et notamment ce qu'avait fait ce chercheur. Dans une sandbox, parfois, elles sont configurées pour répondre à toutes les requêtes et pas faire vraiment la requête sur Internet. Donc, il a déposé ce domaine justement pour voir ce qui se passait, pour étudier la propagation du virus. Il s'est dit, puisque ce virus fait une requête sur ce domaine, je vais les réserver et je vais regarder tout ce qui se passe pour voir combien de personnes sont infectées. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en faisant ça, il a arrêté la propagation. Alors, dans les 12 heures, il y a une nouvelle version, forcément. Les pirates, ils ont vu qu'il y avait une faille dans leur logique, donc ils ont annulé, ils ont enlevé le kill switch, ils ont relancé le virus. Qui est derrière l'attaque ? La NSA a découvert les failles SMB et ils l'ont gardée secrète. C'est-à-dire que normalement, quand dans le domaine informatique, quand on découvre une faille, on prévient l'éditeur, on prévient Microsoft, on la garde secrète le temps que le patch soit fait. Et ensuite, quand le patch est déployé, on peut en parler. La NSA, ils ont dit non, nous, on a une faille, on la garde secrète parce qu'elle peut nous servir. On va pouvoir peut-être espionner certains ordinateurs, certaines personnes grâce à cette faille. Ils avaient une faille depuis on ne sait pas combien de temps et ils l'ont gardée pour eux. Un groupe, Shadow Broker, un groupe de pirates, aurait piraté la NSA. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont réussi à récupérer notamment les informations qui permettent d'exploiter cette faille. Ils ont essayé de vendre tous les secrets qu'ils ont trouvés dans la NSA aux enchères. Faute d'acheteurs, personne n'a voulu enchérir. Ils ont mis aux enchères, ils ont répandu dans la nature. À partir de là, tous les ordinateurs du monde qui n'étaient pas à jour avaient le risque d'être infectés. Et on ne sait pas du coup qui a pu l'utiliser, puisque vous-même, vous aurez pu récupérer ces informations et écrire ce virus. Alors on ne sait pas qui l'a créé. Le ransomware utilise Bitcoin et Tor. Donc Tor, on l'a vu juste avant, ça permet vraiment de rester anonyme. Ça a permis au virus aussi de rester anonyme. Bitcoin, c'est un système de paiement aussi qui permet d'envoyer de l'argent sans dire d'où ça vient et à qui ça va. On a pu analyser les portefeuilles Bitcoin, contrairement à ce qu'on peut croire, ça peut être anonyme, mais ce n'est pas du tout secret. C'est-à-dire tout ce qui se passe sur le Bitcoin, tous les échanges sont publics. Et donc on sait que le virus utilisait 3 portefeuilles Bitcoin et on a pu surveiller combien d'argent allait sur ces portefeuilles. Notamment, on sait qu'en 4 jours, ils ont engrangé environ 40 000 euros. Alors le 19 mai, quelques jours plus tard, Microsoft écrit un papier furieux parce que la NSA avait cette information depuis longtemps, ils ne l'ont pas dit. Et ils ont dû déployer un patch en urgence. Alors le fait qu'en février, le patch Tuesday était annulé prouve qu'il y avait vraiment un problème, que quelque chose n'était pas prévu. Donc ils n'étaient vraiment pas contents. Et exceptionnellement, le patch qu'ils ont fait pour les ordinateurs depuis Windows Vista, ils l'ont sorti pour Windows XP, Windows Server 2003. C'est vraiment exceptionnel puisqu'ils ont décidé que ce sont des vieilles versions de Windows. Elles n'avaient plus droit à aucune mise à jour depuis quelques années. Ils ont été obligés cette fois, pour enrayer la propagation du virus, de sortir le patch pour ces vieilles versions de Windows. Et on a découvert un autre virus qui circule, qui utilise la même faille, mais plus discret et qui corrige le trou de sécurité. Donc ça, c'est des gens qui sont un peu plus malins, qui ont dit « cette faille me permet d'exécuter du code ». Le code que j'exécute, au lieu d'être malfaisant, je vais appliquer le vrai patch. Et comme ça, l'utilisateur est protégé. Est-ce que vous avez des questions ? Alors oui, ça pouvait concerner les particuliers. Alors, sachant que la manière dont il fonctionnait, ça fait que ça touchait plus les entreprises, puisque ça permet d'exécuter du code sur une machine à distance, mais il faut que ce soit une machine sur le réseau. C'est-à-dire que vous, si vous avez un seul ordinateur chez vous, le virus ne va pas pouvoir accéder au protocole SMB, donc à votre ordinateur, puisque vous avez une livebox entre qui bloque les requêtes. Alors en général, ce qui se passait, c'est que le virus était envoyé par email, comme beaucoup de virus font. Ce qu'on a vu dans la présentation précédente, c'est un mail qui arrive dans une société en disant voilà, il y a une facture en pièce jointe, vous cliquez dessus, pof, le virus s'active. La différence, c'est que cette fois, le virus il ne s'active pas que sur le poste client, mais sur tous les postes de l'entreprise qui sont allumés. Donc ça peut toucher les particuliers, mais de la manière dont ils s'exécutent, ça l'a beaucoup moins touché dans les faits. Ah, non, non. Alors, si on a Windows XP, les mises à jour sont nouveau malables? Non. Ce qui s'est passé, c'est que Windows XP, il n'y a plus de mises à jour depuis plusieurs années, depuis 2012, donc 5 ans quand même. Et Microsoft a décidé, pour ce cas particulier, pour cette faille particulière, je fais un patch. Mais il n'y en aura pas d'autres. Ah oui, qu'est-ce que ça fait ce virus? Alors, c'est ce qu'on appelle un ransomware. Alors, un ransomware, c'est un virus qui va chiffrer tous vos documents. Ça va chiffrer, alors pas tout le disque dur parce que y a tout ce qui est système, il n'y aura pas accès, mais tout ce qui va être vos documents personnels vont être chiffrés. Et il y a une fenêtre qui va apparaître vous demandant de payer pour pouvoir les déchiffrer. Donc ça, c'était à la mode quelques temps. On a vu passer pas mal au bureau l'année dernière. On s'en est sécurisé depuis grâce à ce que je vous ai dit. Mais voilà, c'est-à-dire que vous recevez le virus, il travaille en arrière-plan, vous vous rendez compte de rien jusqu'à ce qu'il ait fini et il vous dit « Attention, vous n'avez plus accès à aucun fichier. » Et là, vous avez une adresse Bitcoin qui vous dit « Envoyez, je ne sais pas combien, c'est dans les 300 ou 400 euros peut-être, à telle adresse Bitcoin et on vous les déchiffre. » Alors, est-ce qu'il y a des hôpitaux qui ont été infectés? Alors oui, alors je ne sais pas si c'est ce virus ou un Anacry particulier, mais il y a eu plusieurs attaques de ransomware l'année dernière. Je crois qu'on a beaucoup entendu parler. Effectivement, il y a des hôpitaux qui en ont été victimes. Et donc, alors je n'ai pas les informations exactes en tête, mais il y a des hôpitaux qui ont été totalement, qui ont eu leur service informatique bloqué à cause de ransomware comme ça. Et ils ont payé. Il y en a qui auraient payé, oui. Alors, il paraît que la SNCF utilise Linux. Alors, il y a beaucoup de sociétés qui utilisent Linux pour différentes raisons. Effectivement, de manière générale, on est plus sécurisé sous Linux. Alors, ça ne veut pas dire que sous Linux, vous risquez rien du tout, mais vous êtes plus à l'abri des attaques massives, pas du tout des attaques ciblées. Parce que ça, quand on est une grande entreprise, pour avoir une attaque ciblée, si on est sous Linux, l'attaquant va s'adapter.
Je serais très méchant en disant que même chez Microsoft, ils utilisent Linux en interne. Mais honnêtement, c'est que le gros problème dans les entreprises, c'est ce qu'on appelle la monoculture. Vous prenez par exemple, vous allez cultiver des vignes et vous avez des régions complètes qui sont sur lesquelles il y a des plants de vignes. Mais si jamais il y a une attaque de mildiou, c'est l'ensemble de ces cultures qui sont détruites. Même chose pour le blé, avec certains champignons, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un tiers de la production de la bosse qui est détruite. C'est ce que l'on appelle le paradoxe de la monoculture. C'est plus simple à gérer, mais d'un autre côté, quand on a un problème, on a d'immenses soucis. Et moi, je suis dans une entreprise où effectivement, on essaie d'encourager la polyculture, c'est-à-dire qu'on n'est pas que du Windows, qu'on est aussi du Linux, qu'on est aussi d'ailleurs des versions différentes de Linux, du Mac, pour essayer d'éviter justement ce genre de situation. Le problème, c'est que ça coûte beaucoup plus cher à gérer. Par contre, quand on a un souci, au moins, c'est relativement contenu et relativement cantonné, on va dire. Je vous remercie à tous d'être présents. Je remercie quand même mes camarades d'avoir été présents. Je remercie immensément la médiathèque José Cabanis et leurs équipes de nous avoir proposé de venir et de nous avoir soutenus tout le long. Je vous remercie 100 000 fois d'être venus, d'avoir eu la gentillesse de nous écouter et d'avoir eu des questions. Et les questions sont loin d'être stupides. Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter quelques extraits de la crypto-partie du 28 octobre 2017 à la médiathèque José Cabanis. Vous pouvez écouter d'autres extraits et l'enregistrement intégral sur notre site cpu.pm. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Simon Prévidente, Daskrich, Infacet Grunt, Simon, Maiwan, Solarus, Natouille, Simon et Glacasia. Ingénieur du son de l'événement, Patrick Faubert, organisatrice à la médiathèque, Fleur Bouillane. La release a été shippée avec les moyens techniques de la médiathèque José Cabanis, de la bibliothèque municipale de Toulouse et de CPU. Merci à tous nos amis qui nous ont aidés sur cette journée et qui sont parfois intervenus au micro. L'intégralité de l'enregistrement des extraits et ses sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi. Nous cédons à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé.